Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. Je reçois ce matin Jacques Garra, grand maître adjoint du Grand Orient de France. Bonjour Jacques Garra.
Bonjour Daniel Morfois.
Vous avez représenté le Grand Orient de France à l'occasion d'une audition par l'Observatoire de la laïcité et vous avez souhaité revenir sur ce thème à l'occasion de cette émission. Mais si vous le voulez bien, avant d'aborder l'avenir possible de la laïcité, j'aimerais donner deux informations à nos auditeurs. Tout d'abord, la parution d'un ouvrage « La République des Frères », sous-titré « Le Grand Orient de France de 1870 à 1940 », qui est un ouvrage de Patrice Morla, qui est publié chez Perrin, et que je n'ai pas encore eu le temps de lire, que je viens de recevoir, qui pourrait, j'en suis sûr, faire l'objet d'une émission prochaine. Enfin, je veux revenir sur la troisième conférence internationale d'histoire de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale de France, des rites pour construire la fraternité et qui sera organisée à la fois par la Fondation américaine Academic Policy Studies Organization et le Musée de la franc-maçonnerie. Les intervenants seront reçus par le grand maître Jean-Philippe Hutsch le 13 juin prochain, rue Cadet, et ces conférences, ces deux jours de conférences s'annoncent tout à fait riches et intéressants, notamment Andrew Prescott, grand spécialiste des débuts de la franc-maçonnerie, qui a renouvelé l'histoire de la franc-maçonnerie avec ses travaux en 2017, interviendra autour justement de la controverse qu'il a contribué à ouvrir ou à alimenter sur la date de la création de la première grande loge, 1717-1721. Il viendra donc deux ans après ses travaux nous présenter l'état des recherches dans ce domaine. Il y aura aussi une table ronde organisée par la revue américaine Heredum sur la genèse du rite écossais ancien et accepté aux États-Unis. Il y aura une très importante communication autour du manuscrit Bello qui sera faite sur l'initiation de Cagliostro. Enfin, un programme que vous pourrez retrouver aussi bien sur le site de la BNF que sur celui du Grand Orient de France, www.godf.org. Et il convient de s'inscrire, c'est gratuit, l'inscription est obligatoire et il y aura une traduction simultanée des interventions. Mon cher Jacques, après ces informations rapides, je reviens vers vous. Nous allons commencer, si vous voulez bien, de manière un peu scolaire en cette période d'examen. J'ai l'envie de vous demander, qu'est-ce donc que la laïcité ?
Voilà, alors ça, s'il y a quelque chose de vraiment symptomatique en ce moment, c'est qu'il n'est pas possible de parler de la laïcité sans être sommé d'abord de la définir. Mais c'est quoi la laïcité ? Donc, si vous voulez, ma première remarque, c'est que cette notion qui est allée de soi pendant plus d'un siècle dans notre pays, eh bien, cette notion est devenue le lieu d'un oubli profond. Tantôt, elle est détournée, confisquée, au service d'un projet identitaire entièrement pris comme une arme contre l'islam. Tantôt, je serais tenté de dire à l'opposé, presque. Elle est vidée de son sens véritable et réduite à un simple principe de tolérance œcuménique qui est entièrement mis au service d'un projet d'organisation multiculturaliste des assignations identitaires dans le pays. D'autres fois encore, elle est présentée comme une espèce de religion civile, une religion républicaine. Et enfin, la plupart du temps, elle est simplement vue comme une simple machine de guerre contre les convictions et les sentiments religieux. Bien entendu, la laïcité, ce n'est rien de tout ça. Et c'est parce que elle est enfermée dans ces catégories inopérantes qu'elle ne peut pas nous permettre de relever les défis du présent. La laïcité, c'est simplement un ensemble de principes juridiques qui font de la loi destinée à assurer la liberté politique des citoyens. Une liberté politique qui repose sur le primat de la liberté de conscience dans la formation de la loi et l'organisation de la vie civile. C'est tout. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89 tient la religion pour une opinion, c'est son article 10. Une opinion, cela relève donc exclusivement de la liberté de chacun. Nécessairement, toutes les opinions sont égales aux yeux de la loi. L'égalité de tous les citoyens est donc proclamée, quelles que soient leurs opinions ou leurs options spirituelles personnelles. Voilà. Ce n'est pas autre chose que cela. Sauf cas particulier, les aumôneries, les agents de la sphère publique, que ce soit au travers des règles qu'ils instituent, des fonds publics qu'ils utilisent, des procédures qu'ils mettent en œuvre ou des décisions individuelles qu'ils prennent, doivent être indifférents aux appartenances ethniques, religieuses ou sexuelles, et réciproquement, nul ne doit pouvoir exciper de ses choix privés pour se soustraire à la règle commune. Dans le domaine séculier, la norme religieuse doit s'effacer devant la loi civile. Pour retrouver cette perspective oubliée, il est indispensable de bien concevoir une chose. Si la laïcité respecte toutes les options spirituelles, et évidemment toutes les religions, c'est d'abord fondamentalement en tant qu'elles sont des expressions de la liberté de conscience des citoyens. Voilà pourquoi la République, qui est laïque, qui est fondée sur la laïcité, aura sans doute moins expressément le souci de l'individu bien inséré dans sa communauté, dans son groupe d'appartenance, que celui du croyant en rupture avec son groupe, ou de l'athée, ou de l'agnostique, parce que eux sont seuls, et que leur liberté de citoyen ne peut exister que si elle bénéficie de la protection de l'État. L'État, et ce n'est pas un mince défi, qui doit être capable de protéger également le droit de croire et celui de blasphémer. Nul n'a donc à connaître des choix philosophiques ou religieux des uns et des autres. Ils leur appartiennent. Personne n'a à les connaître, et surtout pas l'État d'ailleurs, qui, dans notre tradition républicaine, s'interdit notamment de les recenser. Là encore, la religion est appréhendée comme un choix individuel, une opinion dont on peut changer, et jamais, en aucun cas, comme une appartenance.
La laïcité n'est-elle pas, au-delà de la liberté de conscience, un moyen pour chacun d'échapper à toute assignation identitaire ? Un moyen d'affirmer que nos origines comptent, certes, mais moins que nos actions, que nos engagements, que nos projets, en quelque sorte.
En effet, la République est un projet universaliste, une ambition perpétuelle d'élaboration du lien civique par-delà les assignations identitaires de chacun dans la recherche, dans la préservation de ce qui est commun à tous. Et la laïcité, c'est l'outil juridique qui permet de créer cette communauté politique des citoyens dans laquelle nul ne sera plus tenu de se référer, de se définir en fonction de ses appartenances ethniques, culturelles, religieuses, sociales ou autres. Parce que pour pouvoir s'imposer à l'ensemble des citoyens, la loi commune doit éviter de se référer à telle ou telle option particulière et travailler à l'universalité de ses propositions. Mais entendons-nous bien, n'est-ce pas ? Cela suppose qu'on s'entende sur la portée des références culturelles communautaires. Bien entendu, et la laïcité ne le nie nullement, elles sont d'incontournables éléments de construction de l'identité personnelle de chacun. Mais pour autant, elles ne peuvent prétendre au statut de facteur obligé d'allégeance. Tout individu doit pouvoir disposer librement de ses références culturelles, sans pour autant être contraint par elles. La société civile, l'État, conserve un droit de regard absolu sur le sort que chaque culture, je mets les guillemets, parce que c'est souvent comme cela qu'on dit pour euphémiser les choses, sur le sort que chaque culture, donc, réserve aux libertés en son sein. Il en va de même, bien sûr, des religions qui ne sauraient bafouer les droits de la personne. L'ouverture à l'universel, donc, exclut l'enfermement dans la différence, mais bien sûr, l'universel lui-même, qui est l'objet même de la recherche de la laïcité, l'universel lui-même n'est un authentique partage de ce qui est commun ou de ce qui peut être commun à tous les hommes que s'il se conçoit de façon critique. Et ici, nous touchons au rôle essentiel de l'école qui, en transmettant une sorte de mémoire de l'humanité, doit être une initiation active à l'universel.
Un certain nombre d'auteurs parlent de retour du religieux. Alors, à votre avis, Jacques Garat, y a-t-il un retour du religieux ou seulement un retour du communautarisme, des revendications identitaires ?
Au cours du XIXe siècle, la société, dans notre pays, mais dans tous les pays européens, chacun à sa manière, s'est soustraite à l'autorité des institutions et des symboles religieux, sur le triple plan du savoir, de la loi et du pouvoir. Elle s'est, on a dit, sécularisée. C'est-à-dire que la religion y a peu à peu perdu l'essentiel de ses moyens de contrôle social. Et à la fin de la séquence, dans notre pays, la France, cette société était devenue laïque. Heureux comme Dieu en France, prétend le dicton yiddish. Pourtant, depuis la fin de la guerre froide, des mouvements politiques de fond, comme la révolution iranienne, la chute de l'Union soviétique, des résurgences de masse, comme les mouvements évangéliques en Amérique, en Afrique, le renforcement de la droite religieuse aux États-Unis, on en a des exemples tout récents, et bien évidemment, l'essor planétaire des mouvements islamistes sont venus mettre toutes les sociétés sécularisées en crise. Les religions investissent de nouveau le champ social avec un prosélytisme qui privilégie presque systématiquement les positions les plus conservatrices, voire les plus violentes. Elles s'en prennent de moins en moins à leurs concurrentes et toujours davantage aux principes qui fondent la sécularisation de la société. La science, le progrès, par exemple, les mouvements anti-évolutionnistes aux États-Unis, l'accès à l'éducation dans certains continents, à la connaissance, et bien sûr, à ce principe juridique qui institutionnalise la sécularisation de la société dans notre pays, la laïcité. Il s'agit pour elles de recouvrer des moyens de contrôle social qu'elles ont perdus et de les développer à nouveau. Ce retour offensif des religions s'est développé depuis les années 70 au milieu d'un grand déploiement de revendications identitaires de toutes sortes. Origine ethno-raciale, régionalisme, sexe, genre, orientation sexuelle. Il faut le dire, nous sommes entrés pleinement dans l'âge identitaire et on assiste aujourd'hui à une recrudescence de manifestations du fait religieux qui vont bien au-delà du culte et qui, effectivement, mettent en cause notre démocratie, nos libertés et notre mode de vie.
Il y a en quelque sorte un retour du cléricalisme, en tout cas. La laïcité est-elle en danger, Jacques Garat ? Et quel danger court-elle ?
Eh bien oui, la laïcité est en danger. Les religions, les grandes religions, sont des éléments surdéterminants extrêmement puissants. C'est la raison pour laquelle, dès qu'une religion se déplace, en fonction notamment des différentes migrations, elle provoque presque systématiquement des affrontements. Nos sociétés occidentales d'aujourd'hui sont le résultat d'un long et lent travail historique pour se dégager d'une dimension collective et arriver à promouvoir une définition individuelle de l'identité. Donc, les hommes dans nos sociétés ont appris à se définir à travers les éléments d'une identité universelle et ont proclamé les droits de l'homme qui sont des droits universels.
Il y a donc un avenir pour la laïcité.
Oui, il y a un avenir pour la laïcité. En dépit du tableau un peu, sombre que je vous ai présenté, la laïcité a un avenir. Je pense que elle repose essentiellement sur l'éthique de la séparation du religieux et du politique. Et le premier élément pour se rassurer, c'est le sondage récent de mars 2019 qui montre de façon extrêmement claire que 87% des Français sont attachés à la loi de 1905 et à la laïcité qu'elle a développée. Donc, par ailleurs, à l'extérieur, cette laïcité française est regardée comme un espoir, et même aux Nations Unies, le rapport de Karima Benoun, rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, recommande désormais, c'est présenté donc le 26 octobre dernier, je cite, « Pour améliorer le respect de la diversité culturelle dans le cadre des droits universels, les États doivent réaffirmer l'importance de la laïcité ainsi que la séparation de la religion et de l'État, de même que l'importance d'espaces laïcs pour la pleine application de la liberté de religion et de tous les autres droits de l'homme. » Alors, je pense que au moment où on regarde à nouveau notre laïcité comme une méthode moderne de pacifier la vie civile et la vie sociale, ce n'est pas pour nous le moment de baisser les bras, mais au contraire, comme nous y invitent tous les militants des droits de l'homme, notamment dans les pays où les religions ont une force coercitive, comme en Iran, comme dans le Maghreb, on attend de nous qu'on continue de les aider.
Jacques Garat, merci de cette parole d'espoir. Pour terminer, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour une prochaine émission au mois d'août seulement. Il n'y a pas d'émission début juillet du Grand Orient de France, mais il y aura les sœurs de la Grande Loge Féminine de France, si je ne me trompe. Donc, merci à Pierrick Charles à la technique, à Dany Journeau à la réalisation. Bon dimanche.